nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Constance Chatterley vit à la campagne, dans le grand manoir que possède son mari, Sir Clifford, un riche propriétaire de mines. Nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a perdu l'usage de ses jambes et la possibilité de consommer le mariage. Un jour, Constance est chargée de faire une commission au garde-chasse, le sauvage et secret Parkin, qui vit dans la forêt du domaine. Ainsi commence l'histoire d'amour que conte Lady Chatterley, le film réalisé par Pascal Ferrand en 2006, d'après un roman de D.H. Lawrence. Un véritable miracle, avait écrit Jacques Mandelbaum, le critique de cinéma du Monde, à la sortie du film. Miracle, en effet, la manière de filmer la nature, la beauté de la lumière et celle du travelling qui suit les deux amants, ivres de liberté, courant nus sous la pluie. Miracle, la justesse des acteurs, Marina Hans et Jean-Louis Coulloc en tête. Miracle, enfin, celui que l'histoire nous conte et que le film parvient admirablement à faire sentir, et qui est, tout simplement, la puissance révolutionnaire de l'amour. « J'aimerais tellement être un oiseau », dit Constance au cours d'un des premiers moments passés avec son amant. La réplique sonne, rétrospectivement, comme l'annonce du film suivant de Pascal Ferrand, « Bird People », dans lequel une autre héroïne prendra, cette fois littéralement, son envol. Écoutons donc Pascal Ferrand raconter l'histoire de la création de Lady Chatterley au micro de Michel Simon dans Projection Privée, le 11 novembre 2006.
Projection privée. Bonsoir, nous recevons aujourd'hui Pascal Ferrand pour son film Lady Chatterley. Pascal Ferrand, cinéaste rare dans tous les sens du mot, puisqu'elle fait un cinéma qui ne se compare à aucun autre, et d'autre part, elle a fait même peu de films, et on en parlera peut-être après, mais en tout cas, le principal, c'est de parler de ce film magnifique, salué par la presse quasiment unanime. J'en suis ravi pour vous, Pascal Ferrand, c'est rare, encore une fois. Donc, Lady Chatterley, après 10 ans, puisque votre dernier film, c'était L'âge des possibles, vous êtes une jeune cinéaste, vous avez commencé brillamment par Une caméra d'or, avec Petits arrangements avec les morts, en 1994. Et donc, ce film est une adaptation de D.H. Lawrence. Je dois dire, à la fois, c'est un film qui a une beauté, un lyrisme, en même temps une simplicité tout à fait rare, et en même temps, c'est aussi une des rares adaptations que je connaisse d'un grand auteur qui restitue vraiment, je pense, la sensibilité, la philosophie, le point de vue sur le monde de D.H. Lawrence, qui doit être en partie le vôtre, puisque sinon vous n'auriez pas choisi ce livre.
Oui, bien sûr. Ben oui, parce que moi, quand je connaissais pas du tout D.H. Lawrence, très peu de temps avant d'adapter le livre, en fait. Je l'ai découvert par un texte assez célèbre de Deleuze qui s'appelle « De la supériorité de la littérature anglo-saxonne », qui est un énoncé de chapitre qui m'avait beaucoup plu parce que je suis une très grande lectrice de littérature anglaise en particulier. Et donc j'ai l'impression de connaître assez bien Thomas Hardy, Jane Austen, les Sœurs Brontë. C'est des livres qui me nourrissent, qui m'ont beaucoup, voilà, dont je me sens proche, y compris dans le rapport à la nature. C'est toujours des livres qui sont comme ça très, très, très enveloppés dans un environnement et beaucoup dans des forêts. Et puis, tout d'un coup, j'apprends par ce texte que, en tout cas, Deleuze considère Lawrence comme un grand écrivain, ce qu'on ne dit pas tellement en France. Enfin, c'est pas un auteur très, très estimé ou très à la mode.
Il a été, oui. C'est vrai qu'il est tombé un peu dans l'oubli.
On a l'impression que tout d'un coup, il est un peu tombé dans l'oubli. Et donc, j'ai découvert très tard 4-5 de ses livres en finissant par l'amant de Lady Chatterley. Et puis, ensuite, j'ai appris qu'il y avait une deuxième version du livre antérieure qui était différente parce que la méthode de Lawrence pour écrire ses livres est assez surprenante, en fait, dans l'histoire de la littérature, puisque à chaque fois, il réécrivait intégralement le manuscrit, et donc chaque version des trois versions de Lady Chatterley qu'il a écrites sont assez différentes. Et moi, il y a effectivement un endroit où je partage, j'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits où je partage sa vision du monde, mais c'est... Je pense que c'est en particulier sur l'amour comme possibilité de processus de vérité entre deux personnes. Voilà, c'est ça qui moi m'a parlé le plus fort dans le livre quand je l'ai découvert et qui m'a parlé très intimement et dans un rapport très premier à cette œuvre-là, enfin à ce livre-là, comme si je pouvais dialoguer très directement avec cette histoire à cet endroit-là précis, c'est-à-dire comment la rencontre entre deux personnes, ici d'horizons très différents, et ça n'est pas un hasard. Enfin, je veux dire, c'est important que ces deux personnages-là viennent d'une culture et d'une classe très différentes, parce que la rencontre va être encore, et l'apprivoisement et l'apprentissage de l'autre va être encore plus nécessaire pour combler comme ça et pour inventer une forme d'harmonie au-delà des classes sociales et de leurs très nombreuses différences sociales et culturelles. Et comment, à l'intérieur de cette rencontre, qui commence par le corps, enfin par un élan des corps, un processus se met en place d'apprivoisement, de connaissance de l'autre, de transformation de l'un par l'autre, tout le temps. Et c'est très actif, la question de la transformation. Les deux, en permanence, sont modifiés par ce qu'ils vivent, sont en interaction en permanence entre deux, jusqu'à... leur permettre la naissance d'une intimité et une forme de mise à nu d'âme et de corps et d'âme qui ne fait qu'un dans le livre et que ce que je trouve extrêmement beau. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, il, au moment où il commence à se déshabiller très tard, puisque la première fois où ils font l'amour, ils restent habillés. Et quand ils commencent à se déshabiller, on a l'impression que ça ne fait vraiment qu'un, avec une espèce de dépouillement comme ça vers des profondeurs intimes ou des vérités intimes de l'un et de l'autre. Et à la fin, voilà, c'est l'addition de tout ça, de tous ces moments présents entre eux, de la confiance qui est née entre eux, d'une forme d'une langue commune, par exemple, de mille choses qui participent de la rencontre et de l'émerveillement des sentiments naissants entre eux, leur permet de réinventer le monde avec une forme de puissance révolutionnaire, une charge politique que moi je trouve très très forte dans le livre. Quoi.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi donc la deuxième version, ces trois versions, et que la deuxième version, qui est beaucoup moins connue, qui est parue également chez Gallimard, comme mm-hmm. toute l'œuvre de Lawrence, Lady Chatterley et l'homme des bois, d'ailleurs dont le titre original c'était John Thomas et Lady Jane,
qui est à peu près intraduisible en français.
Parce que John Thomas et Lady Jane, c'est en argot, en langage familier, les organes sexuels de l'homme et de la femme. Un John Thomas et une Lady Jane, ce sont les sexes de l'homme et de la femme. Ce qui prouve d'ailleurs à quel point, parce que c'était un livre, peut-être le premier et le dernier livre où vraiment l'amour physique est décrit par Lawrence, parce que c'était un romancier très très rebelle et très anticonformiste, mais il n'avait jamais traité vraiment de l'amour physique. Et d'ailleurs, d'autant plus étonnant que, en fait, dans ce roman, ce qui est étrange, je l'ai appris en lisant une biographie de Lawrence, c'est que Lawrence, sa femme Frida, avait pris un amant au moment de l'écriture de ce roman, de Lady Chatterley, l'homme des bois. Et qu'elle avait un amant, et que lui, c'est un peu Clifford, c'est-à-dire le mari, non pas...
Je pense que c'est les deux tout le temps, c'est ça qui est magnifique.
Voilà, c'est-à-dire que, puisqu'il y a aussi ce personnage du mari...
En identification, et au mari, et à l'amant.
Qui est paralysé, enfin, qui était victime de la Première Guerre mondiale, et qui ne peut plus consommer avec sa femme, et donc elle prend cet amant. Et donc, Lawrence, d'une certaine façon, est très impliqué aussi dans cette histoire.
Mais moi, je le sens impliqué tout le temps, en fait. C'est drôle que vous parliez de ça, parce que moi, la première fois que je l'ai lu, j'avais l'impression qu'effectivement il y avait une identification au mari à Clifford de la part de l'écrivain, alors que même que c'est un personnage assez tyrannique, qui maintient comme ça sous emprise une sorte de mainmise intellectuelle, en particulier sa femme, dans une forme de grande complicité en même temps. Enfin, c'est évident qu'ils se sont aimés beaucoup, ces deux-là. Et en même temps, on a l'impression au fur et à mesure des trois versions du livre, que moi, c'est ce que je ressens comme lectrice, hein, je peux me tromper, mais que Lorenz rapproche le plus possible l'amant de lui, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il est dans une identification aux deux, mais ce qui est complètement possible. Enfin, évidemment, ces deux grandes figures de l'amant et du mari, c'est complètement possible en permanence, j'ai l'impression, pour un homme, mais même pour une femme, de s'identifier aux deux, quoi.
Alors, ce qui est très beau dans votre film, c'est que vous êtes lectrice de littérature anglo-saxonne, vous l'avez dit, et particulièrement anglaise, mais le film, curieusement, qui est un roman, vient d'un roman, disons, de tradition réaliste, même naturaliste, par certains côtés. En même temps, vous l'avez rendu comme une sorte de conte. Oui. Un peu comme, alors là, comme plutôt les romans américains, comme La Lettre écarlate ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, avec simplement ces trois espaces que vous avez créés, visuellement, qui est le château d'une part, où elle vit avec son mari handicapé, la cabane, où elle retrouve l'homme qu'elle aime,
le garde-chasse,
et puis entre les deux, la forêt, qui elle parcourt dans le film plusieurs fois. Il y a ces travelling qui la suivent dans la forêt, qui la conduisent du château à la cabane et
retour. Et qui va être peu à peu, qui va devenir peu à peu son territoire à elle, en fait. Elle étant dans le territoire de l'entre-deux, ce que je trouve assez joli et que je n'avais pas d'ailleurs du tout théorisé pendant le tournage. J'ai l'impression que c'est au moment du montage que j'ai enfin compris ce que j'avais essayé de faire pendant le tournage sans en être parfaitement consciente à ce moment-là. Oui, elle s'approprie le territoire de l'entre-deux, quoi. Et au début, il y a une espèce de forme d'autonomie de la nature, comme ça. Et puis, peu à peu, il y a une contamination entre elle et la nature. Et on ne sait plus très bien qui est le reflet de l'autre, quoi. Si la nature est le reflet de son paysage mental. Parce qu'il y a tout un jeu comme ça sur les humeurs. Moi, ce que j'aimais bien dans l'idée de filmer les trajets, c'est dans le roman, mais simplement moi dans le roman je n'ai pas arrêté de retrancher des choses et les trajets je les ai à peu près tous gardés, donc ils prennent une importance dans le film encore plus démesurée que dans le livre, je pense. Mais c'était un moment où on pouvait capter ses humeurs et que la nature finalement devenait la façon de filmer la nature devenait le moyen de raconter ses humeurs intérieures, quoi, son paysage mental. La façon de le filmer, mais aussi les sons, la musique, enfin, la musique dans le film accompagne assez souvent ces trajets. Et évidemment, c'est un endroit où ça percole, je sais pas, c'est pas un très bon mot, mais où il y a des effets de bascule comme ça, parce qu'elle passe d'un territoire, de territoire de son mari à celui de son amant, et ses humeurs sont compliquées, quoi. Et selon les, évidemment, quand elle retourne au château, elle est dans une humeur en général extrêmement différente que celle dans laquelle elle était quand elle y allait. Enfin, voilà, et c'est ça que le film essaye de capter. Et ça aidait aussi parce que, quand même, on a souvent des scènes d'une assez grande intensité de tension ou émotionnelle, ou entre elle et Parking, le garde-chasse, ou entre elle et son mari. Et ça permettait aussi d'avoir des effets de ralentissement, d'une chose un peu plus contemplative, d'avoir pas des temps morts, mais des temps plus doux, moins tendus en tout cas. Donc c'est aussi des moments très importants rythmiquement, en fait.
Alors la nature, évidemment, on vient d'en parler, est essentielle. C'est un troisième personnage ou un cinquième, parce qu'il faut pas oublier tout le personnage du mari et celui de la
garde malade,
qui est un personnage important. Il y a la garde chasse et la garde malade. Oui. Il y a deux gardes. La nature, le côté panthéiste de Lawrence, là où, et d'ailleurs aussi post-romantique d'une certaine façon, ça vous l'avez très bien saisi. Mais vous-même et avez toujours été porté sur, je crois, sur la nature. Je me rappelle des petits arrangements avec les morts où il y avait des extraits documentaires sur le comportement des abeilles. On parlait de l'instinct maternel des perce-oreilles.
Oui, donc, le fameux instinct maternel des perce-oreilles.
Voilà, donc dès votre premier film, je ne parle pas de L'âge des possibles, ce second film qui est un peu particulier, mais il y avait cet intérêt pour la nature. Alors ici, c'est plutôt la flore que la faune.
Enfin, encore que, il y a des écureuils, des poules faisanes,
La faune est là, mais c'est plutôt la flore qui domine. Et je crois que vous avez un intérêt particulier pour, parce que c'est un film qui vibre complètement avec le paysage.
Il y a un peu une double chose, c'est que d'une part, c'est relativement récent. Je suis complètement autodidacte sur cette question-là, mais depuis une quinzaine d'années, j'ai découvert le jardinage, voilà, et c'est une chose importante dans ma vie. Ça. Et ça m'a ouvert à un monde que je connaissais pas, qui est la botanique, en fait, voilà. Et régulièrement, j'apprends des choses, je lis des livres, j'ai un rapport assez d'entomologiste, ça, enfin de systématique. La botanique m'intéresse là où si je m'occupe des roses, je m'en occupe très très sérieusement, quoi. Donc voilà, je fais des plans, mais soit certains soirs d'hiver de jardin, et donc j'avais une envie comme ça très 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 grande d'essayer de filmer ça, parce que ça me faisait plaisir d'imaginer un tournage qui suive les saisons, qui suive l'évolution des choses. Et ensuite, c'est vraiment un film, alors Petits Arrangements l'était aussi, et celui-là d'une certaine façon encore plus, qui est très très fortement sur les sensations et la présence du monde et les matières du monde. Et d'une certaine façon, cette rencontre entre ces deux personnages ne fait qu'un, avec une forme de renaissance pour l'un et pour l'autre, alors qu'on suit encore plus minutieusement sur Constance dans un premier temps que sur Parking. Mais cette renaissance ne fait qu'un dans un être au monde, je dirais. Et je pense que sur ce film-là, plus que sur aucun autre, la question des matières et de la beauté du monde par moment, tout simplement, et de la joie d'être au monde, et ne fait qu'un avec le projet, quoi. Voilà, donc le film essaye vraiment tout le temps d'être à la fois dans des sensations et à la fois dans la pensée des personnages, et pour que le spectateur puisse tout le temps être dans la tête des personnages, alternativement de l'un à l'autre, pour comprendre tout le temps, pas seulement les mots, mais y compris ce qui vivent à l'intérieur.
Il y a une très belle scène d'ailleurs vers la fin, une scène aussi très difficile, parce qu'elle pourrait tomber un peu, d'ailleurs comme la littérature de Lawrence, risque toujours de, par rapport à notre sensibilité d'aujourd'hui, de tomber un peu peut-être dans le ridicule. Et c'est absolument sublime, c'est la danse sous la pluie, nue, des deux amants, et ensuite, quand ils viennent trouver refuge à l'intérieur, ils se mettent des fleurs et sur le nombril, sur les oreilles, etc. Bon, ça, c'est un moment extrêmement beau. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, évidemment, de la prise de risque?
Oui et non. C'est une scène extraordinairement marquante dans le livre. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à l'occasion, quand les gens ont lu le livre il y a très longtemps, et il y a pas mal de gens qui l'ont lu adolescent, c'est souvent une des scènes dont ils se souviennent. C'est une scène extrêmement, extrêmement marquante. Et moi, évidemment, c'est presque un point de fusion parfaite pour moi dans mes deux désirs de cinéma profonds quand je découvre le livre, qui est à la fois l'amour, le processus d'amour ou la naissance d'un couple, disons, et tout ce qui se joue comme ça entre ces deux personnages, et la question de la nature qui les accompagne dans leur transformation. Enfin, parce que, je fais une petite digression, mais moi, je peux avoir un rapport un peu compliqué avec Lorraine sur la nature. Je suis pas forcément en accord avec lui sur un retour aux origines ou une chose où je sens une chose avec laquelle je ne suis pas pleinement en accord, moi. Mais j'ai l'impression d'avoir contourné le problème en faisant en sorte que cette question-là, que la nature ne soit jamais dans un rapport de retour aux origines, mais tout le temps dans un rapport d'accompagnement de la transformation des personnages, en fait, et de reflet d'un paysage intérieur. C'est vrai que moi, quand je lis cette scène-là, c'est une des rares scènes qui est à peu très 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 proche dans la deuxième et la troisième version. Moi, je pense que Lawrence lui-même adore cette scène au moment où il l'écrit. Et moi, comme par hasard, c'est un point de fusion incroyable dans mes désirs de cinéma. Donc, évidemment, ça fait peur parce que quand c'est à ce point-là, un désir. Des fois, on fait un film pour tourner une scène. Alors là, moi, c'était, il y en avait un paquet que j'avais vraiment envie de tourner. Je pourrais pas dire que c'était, il y avait que celle-là. Il y en avait peut-être 5 ou 6. Mais celle-là, on faisait partie. Et évidemment, c'est les scènes qu'on a le plus peur de rater, parce qu'il y a, un tel poids, un tel affect dans son désir de cinéma à ce moment-là. Mais oui, elle est. Mais pour moi, vraiment, il y a le sublime ou la grâce est forcément très très proche du ridicule. Donc, j'ai pas peur de ça. Et après, alors là, c'est le tout du processus du tournage qui se met à jouer pour arriver au fait que cette scène, tout d'un coup, on ait l'impression qu'elle est très simple à filmer. Et c'est un tournage qui s'est étendu sur 4 mois, ce qui est très long, mais le film est long. On était une toute petite équipe, et c'était les scènes d'amour physique, c'est des choses quand même où il faut du temps, parce que c'est délicat, c'est compliqué à filmer, la nature aussi, pour être là au bon moment, pour les problèmes de météo. Et donc on avait un tournage long, et la scène sous la pluie, et on tournait tout le temps dans la chronologie, donc on a dû atteindre cette scène-là au 90e jour de tournage, au 95e, quoi. Et il y avait une espèce de... Je sais pas, on a été pris, l'équipe entière, les très longs travelling sous la pluie, c'était des travelling très très compliqués à faire. Il y avait une espèce de joie incroyable de toute l'équipe d'atteindre ce moment-là. Et on était très contents ce jour-là, quand on avait l'impression d'y être arrivé, quoi, de tenir la scène. Et le lendemain, on est rentré dans la cabane pour faire la scène des fleurs. Et tout était simple, quoi. C'est très bizarre. J'ai rarement ressenti ça à ce point-là sur un plateau. Il y avait, voilà, les corps des deux comédiens qui sont absolument sublimes. Moi, j'adore leurs deux corps. Eux-mêmes n'avaient plus de problème du tout avec la nudité à ce moment-là, parce qu'ils avaient fait le même apprentissage d'une certaine façon que les personnages, et que ils avaient déjà tourné toutes les autres scènes nues, et où il n'y en a pas tant que ça, hein, dans le film. Mais à ce moment-là, c'était simple pour eux. Les fleurs étaient vraiment dans le champ d'à côté. Enfin, on n'arrêtait pas d'aller les ramasser, mais elles étaient tout près. Et il y avait une confiance. Et je crois que le danger du ridicule, c'est quand on n'a pas une foi absolue dans ce qu'on filme. Et là, il y avait une foi absolue et partagée par toute la toute petite équipe qui était autour des deux comédiens. Et c'était une scène tout d'un coup très simple à tourner, en fait.
Pascal Ferrand, ce qui il me semble, c'est que le livre de Lawrence, quand il paraît en 1929, il va à contre-courant, c'est un coup de tonnerre dans la façon de parler de la sexualité. Et curieusement, en adaptant ce livre aujourd'hui, vous lui rendez, votre film joue un peu un même rôle, c'est-à-dire par rapport, alors évidemment, la représentation de la sexualité, il y en a eu des millions depuis, puisqu'il y a une libération des mœurs incroyable où tout est autorisé quasiment. Et pourtant, votre film est complètement à contre-courant, disons, de deux tendances, soit une tendance mièvre, pseudo-poétique, etc., soit la tendance de la transgression, c'est-à-dire aller vers l'organique, etc. C'est-à-dire que la pulsion. C'est-à-dire que vous réintroduisez, au contraire, justement, une sexualité beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe, qui est un peu à contre-courant de tout ce qu'on voit aujourd'hui.
Ben, je suis complètement d'accord avec vous, oui. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous. Je pense, enfin, il y a un endroit où c'est pour ça que j'ai eu envie de faire le film, profondément. C'est-à-dire que on ne peut pas décider, enfin, avoir envie, pour moi, ça n'a même pas été l'un de la décision, mais plutôt de la hantise. Enfin, la façon dont le livre s'est mis à me hanter, c'est qu'il correspondait très, très profondément à un désir d'essayer de donner une autre représentation de la sexualité au cinéma, enfin une sorte de troisième voie, parce que moi, comme spectatrice, je m'y retrouve pas tellement, en fait, voilà. Souvent, je m'y retrouve pas tellement. J'ai l'impression que ça ne me parle pas tellement de ma vie ou de ma propre expérience. Je pense qu'effectivement, soit les films se mettent à changer de nature à ce moment-là, et que tout d'un coup, on sort d'une grande scène de dialogue, et puis on tombe dans une scène où ils font l'amour, et ça ne raconte plus que ça. C'est-à-dire, ces deux-là font l'amour, alors on ne s'identifie plus au personnage, parce qu'il y a de la musique, parce qu'on est face à un couple fusionnel à ce moment-là. Et ça, je trouve ça très, très étrange, quoi, ce changement de nature. Soit alors, effectivement, on est dans la grande vie, comme ça, des pulsions animales, où il n'y a plus que de l'élan physique, et où on a l'impression qu'il n'y a plus à ce moment-là de pensée ou de mémoire, ou de Et ça me semble pas non plus restituer la puissance de l'expérience qu'on peut en avoir de ces moments-là dans la vie, en fait. Donc, et moi, quand je découvre le livre de Lorenz, en particulier Lady Chatterley, cette version-là, je suis très très frappée par le fait que ça me parle tout le temps de ma, ça, j'ai l'impression que ça me parle tout le temps de ma vie. Voilà, que le livre a été écrit en Angleterre en 28 et pourtant que ça me parle de ma vie en permanence. Et j'ai l'impression que je peux, grâce au livre, en m'appuyant sur la proposition de Lorenz, peut-être tenter une sorte de, voilà, de troisième voie de représentation, et que c'est le bon moment pour faire ça au cinéma. C'est-à-dire qu'il a fallu sans doute en passer par tous les films sur la transgression, enfin tous les films qui essayent de dépasser comme ça des limites de représentation de la sexualité, et y compris tout le cinéma pornographique d'ailleurs, pour qu'aujourd'hui on puisse alors un peu tranquillement tenter d'être avec le spectateur dans le partage de l'expérience de l'intimité entre deux personnages, y compris de l'intimité sexuelle, sans la question de la, en mettant de côté la question de la transgression, pour être justement vraiment dans le partage de l'expérience et de considérer que, et c'est ça qui est très beau dans le livre, c'est qu'en permanence les scènes d'amour physique font partie intégrale du récit. C'est-à-dire que sans arrêt, elles racontent quelque chose sur là où en sont les deux personnages, l'évolution de leur relation, le moment précis, le moment présent. À ce moment-là, ils en sont à cet endroit-là précisément. Et puis, ça va ouvrir de nouveaux horizons pour l'un et pour l'autre, puisqu'ils font des choses dans le dialogue des corps, leur ouvre des horizons ou des expériences qu'ils n'avaient pas connues avant, qui les modifient, et que donc quand ils se retrouvent, ils ne sont pas pareils, et ils vont donc pouvoir vivre encore autre chose. Mais pas à chaque fois, c'est une alliance, c'est des individus entiers, c'est-à-dire que ça n'est pas que le dialogue des corps, c'est le dialogue des corps, mais aussi le dialogue de la parole, mais voilà, mais aussi leur pensée, et tout ça est réconcilié. Voilà, il n'y a pas le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, c'est un corps plein et entier, réconcilié, c'est absolument la démarche de Lorenz, il l'exprime extrêmement clairement dans ses lettres. C'est une chose profondément anti-platonicienne, enfin, à la fois le corps et l'esprit, et le tout sans culpabilité, ce qui est utopique, magnifique et enviable.
D'ailleurs, le roman, un titre alternatif pour Lawrence aurait été Tendresse.
C'est-à-dire que je ne sais pas.
Et votre film restitue cette tendresse. Et c'est très difficile à rendre la tendresse à l'écran. Ce que c'est que la tendresse.
Oui, c'est un sentiment, c'est vrai, oui. Et oui, moi, je ne sais pas d'où sort le titre Lady Jane et John Thomas. J'ai l'impression que Lorenz n'a jamais pensé à appeler ça comme ça lui-même. Et effectivement, dans ses lettres, au moment où il écrit la deuxième version, il pense à l'appeler Tenderness, c'est-à-dire tendresse. Et là, vu à quel point l'odeur de soufre a intégralement recouvert le livre, ça paraît même fou d'imaginer aujourd'hui que Lorenz lui-même savait que c'était un livre là-dessus, en fait. Et que c'était ça qui cherchait à raconter. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, je pense que le film est d'une assez grande, voire d'une très grande fidélité à Lorenz, à cette œuvre en tout cas.
Évidemment, un film de ce genre, avec deux personnages, 2h40, le choix des comédiens est plus que jamais important. C'est-à-dire que vous avez deux comédiens magnifiques, un comédien qu'on ne connaît pas du tout... qui a Jean-Louis Coulloc,
oui,
qui a cette sorte de virilité et en même temps une féminité, comme Gabin ou Brando, cette sorte de force de la nature et en même temps une sensibilité extraordinaire. Et puis Marina Hans, qu'on avait vu en particulier au théâre dans La Phèdre, mise en scène par Patrice Chéreau, jouait Arissi, grande comédienne, qui a vraiment un rôle magnifique. Alors comment c'est... Parce que c'est en même temps très délicat à jouer. Il y a toutes ces scènes d'intimité profonde. Et puis Marina Hans traduit aussi cette sorte de... presque de candeur, de fraîcheur extraordinaire qu'elle a dans sa façon de parler, qu'on trouve d'ailleurs aussi dans les dialogues de Lawrence.
Oui.
Et lui a cette sorte aussi un peu de timidité.
C'était l'enjeu presque premier de une fois le scénario écrit, on avait l'impression que j'avais moi l'impression que voilà que selon le casting le film se ratait ou se gagnait quoi, qu'il y avait pas d'enjeu plus important que celui-là d'une certaine façon. Marina Hans, moi je l'avais repérée comme vraiment comme spectatrice il y a un peu longtemps dans un très très joli téléfilm de Nina Companese où elle avait un des trois rôles principaux et elle était toute jeune et je l'avais trouvée passionnante et très singulière, mais même sa beauté est singulière, enfin. Et puis son, je sais pas, c'est peut-être parce qu'elle a fait une partie de sa formation, elle était au conservatoire et puis elle est partie faire une année de formation à Londres. Elle est complètement bilingue parce que son père est anglais. Et je trouve qu'elle a une façon d'appréhender ses rôles qui est pas française, enfin, où il y a un endroit, Elle est vraiment singulière comme actrice, quoi. Et elle est très, très frémissante. Tout part tout le temps de l'intérieur. Moi, ce que je trouve sublime chez elle, c'est à quel point son physique, son visage, ses expressions, même son corps changent en fonction de son intériorité, quoi. Et elle a une palette, je trouve, elle tient le film 2h40 sur les épaules, quoi. C'est-à-dire qu'elle est à peu près de tous les plans. Il faut que sans arrêt le spectateur soit tendu vers elle et, que comme ça, comme un fil qui relie le spectateur à l'écran grâce à elle. Et j'ai l'impression que peu d'actrices auraient pu jouer à ce point-là l'infinie palette de sentiments et de sensations et d'abandon aux situations. Donc quand je l'ai rencontrée, il y a eu une sorte de coup de foudre très rapide et un peu miraculeux. C'est bouleversant parce que on fait un projet comme ça et puis après on se dit maintenant il va falloir trouver l'incarnation de Lady Chatterley et on se dit on peut peut-être ne jamais la trouver, enfin on peut pas être sûr tant que la rencontre a pas eu lieu, et quand elle a lieu ça devient un événement énorme, exactement d'ailleurs comme une rencontre amoureuse, c'est un événement énorme dans la vie et on le sait comme ça, on s'est senti très vite. Et en particulier parce que quand je lui ai raconté le projet, quand je l'ai rencontrée, elle savait même pas pourquoi elle venait me voir, et elle avait pas lu le livre, donc je l'ai raconté dans le détail et j'ai senti que ça, ben, elle était assez vite au bord des larmes et j'ai senti que ça lui parlait très très intimement de sa propre vie ou de qu'elle avait très envie qu'on lui raconte cette histoire à ce moment-là, comme si presque ça l'aidait qu'on lui raconte cette histoire, que ça lui permettait d'espérer. Et après, et c'était très important sur presque le partage du sens ou de la responsabilité. Elle avait un engagement parce que tout s'est construit évidemment sur la confiance et sur la douceur. J'avais pas du tout envie j'avais envie de partager avec mes acteurs l'importance de raconter cette histoire-là aujourd'hui, et les deux étaient très 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 engagés, très exposés physiquement, très engagés dans ce qu'ils avaient à faire, mais aussi très engagés dans l'idée de défendre ensemble cette histoire-là.
Et le choix de Jean-Luc Coulloc s'est passé après.
Oui.
Et vous avez pris un acteur peu connu ou pratiquement inconnu pour que le spectateur ait cette découverte comme elle.
Ben oui, c'est ça. J'avais vraiment envie, autant que faire se peut, que voilà, que le comédien fasse irruption à l'écran en même temps que dans la vie de Constance, et qu'on se dise comme elle, mais qui c'est celui-là, enfin d'où il sort, quoi. Et donc je cherchais plutôt, si, idéalement, un acteur inconnu. Et finalement, Sarah Tepper, qui faisait le casting avec moi, enfin qui était une des deux personnes qui faisait le casting, connaissait Jean-Louis pour l'avoir vu au théâtre, m'en a parlé assez vite. Et moi, je ne le connaissais pas du tout parce que c'est vraiment un acteur qui a démarré tard, ce que je trouvais intéressant parce qu'en fait, il a fait plein de métiers avant et souvent des choses assez, assez manuelles. Enfin, il a été aide-soignant, il a été cuisinier, il a été machiniste au théâtre. Et puis, comme ça, sur le coup de 30 ans ou 32 ans, Claude Régis l'a repéré parce qu'il était dans l'équipe d'écho du Théâtre de la Bastille et lui a proposé un rôle muet dans un premier temps dans un spectacle. Et puis après, après François Tanguy a travaillé avec lui. Voilà, et maintenant c'est un acteur qui joue surtout au théâtre, que moi j'ai vu que j'ai vu juste avant de le rencontrer dans un spectacle où il était absolument magnifique. Et il est une espèce d'incarnation quand même très évidente du personnage, je trouve, sur le rapport premier à la matière, à la terre, enfin. Et puis c'est un bloc de présence pure, hein. Moi j'ai rarement eu un comédien qui soit... on en parle toujours, mais de cette espèce de mystère de la présence où quelqu'un, un être humain filmé et tout d'un coup a presque un surplus d'existence, enfin, où il existe plus filmé que pas filmé, et que comme ça quand on le regarde en direct dans la vie. Et Jean-Louis a ça poussé à un niveau incroyable, quoi. C'est que dès qu'il est, la caméra l'aime incroyablement.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage du garde-chasse dans la seconde version, celle que vous avez adaptée, est différent de la troisième version. Oui. D'abord, le nom a changé, il s'appelle Mellors. Oui. Et aussi, c'est quelqu'un qui a été officier dans l'armée, qui parle l'anglais, et qui parle l'allemand et le français. Donc, il y a une éducation.
Une sorte d'intellectuel, presque, voilà, dans la troisième version.
Et du coup, la dimension de l'histoire que vous avez traitée, c'est-à-dire ce rapport de classe, est beaucoup moins visible dans la troisième version. Alors que là, il s'agit vraiment d'un rapport de classe. Et alors, je me permets de poser une question. Ce qui est intéressant, c'est qu'en français, puisque le film est en français, par exemple, le passage du « tu » au « vous » est très important, parce que par moment, il la tutoie dans les moments d'intimité, de tendresse, et puis après, il y a le rapport de classe qui se manifeste à nouveau, c'est vous. Oui. Si vous aviez tourné le film en anglais, qui aurait pu être une... J'aimerais que vous m'en parliez aussi. Ça a dû, peut-être, vous avez dû y penser. Il y avait une possibilité aussi, c'est puisque c'était un roman anglais, ça se passe en Angleterre, de tourner comme Esther Kahn de Desplechin ou Intimité de Patrice Chéreau, c'est-à-dire de faire un film en langue anglaise sur une histoire anglaise. Alors, en prenant le parti pris du français, vous, en même temps, vous gagnez curieusement ces différences de tutoiement et de vouvoiement.
Moi, je n'ai jamais du tout envisagé tourner en anglais parce que je ne parle pas anglais, vraiment comme un pied. Donc pour moi, c'est hors de question de tourner en anglais. Il y a quand même une finesse du travail avec les comédiens. Donc je sais très bien que même si je prenais des cours pendant longtemps, je n'atteindrais pas ce niveau de finesse de travail dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Donc je l'ai absolument jamais envisagé. Ce qui est amusant, après, dans le travail d'adaptation, il y a une chose très importante dans le livre qu'on ne pouvait pas transposer, enfin qui est que dans le livre assez souvent il parle en patois le garde-chasse. Enfin il y a un jeu assez amusant parce qu'on sait bien que les codes de langue en Angleterre sont liés aux classes sociales sont beaucoup plus fortes qu'en France. Et ça nous on pouvait rien en faire. Parce que c'était vite assez ridicule et ça ramenait une forme de pittoresque qui me semblait très improductive par rapport au film. Par contre, on avait cette possibilité de jouer sur ce clavier-là du tutoiement et du vouvoiement qui à la fois... Et c'est joli parce que c'est un endroit où ça parle vraiment et de la différence sociale et de l'intimité, en fait, et du niveau d'intimité dans lequel ils sont. Et ça s'est fait assez simplement comme ça quand on écrivait le scénario. On en a usé et abusé, c'est-à-dire que il n'arrête pas. Enfin, c'est très très souvent, il passe du tu au vous. Mais c'était tellement intégré que même qu'après sur le tournage, on n'en reparlait jamais. Les comédiens ne sont jamais trompés parce que ça correspond vraiment à chaque fois à une espèce de logique de pensée, d'humeur et de entre deux, quoi. Mais c'est vrai que c'est dans la séquence finale, par exemple, où ils se sont pas vus depuis longtemps, lui commence par la vouvoyer, elle, alors qu'elle le tutoie tout de suite. Et après, il met longtemps vraiment à accepter c'est pas de l'ordre d'acceptation parce que c'est complètement inconscient, mais ça participe aussi du fait qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent, comme ils ne peuvent évidemment rien imaginer, rien projeter. Ils ne peuvent pas projeter une histoire de couple entre eux parce que leur relation est impensable à cause de la différence sociale. Et donc, ils sont tout le temps dans le présent, en fait. C'est pour ça que le temps passe d'une façon assez étrange dans le film. Et vous disiez tout à l'heure, et je n'ai pas rebondi là-dessus, mais je trouvais ça très, très intéressant que vous souligniez ça, c'est le fait que ça soit construit un peu comme une fable. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la fable philosophique et du conte de fées dans tout ça. Enfin, il y a quelque chose d'un peu féerique. Et la construction, la structure du scénario est vraiment construite comme ça. Avec des vrais points de transformation et pourtant à chaque fois qu'ils se retrouvent, alors par contre on bascule dans une chose qui est presque de l'ordre du documentaire, enfin d'essayer de capter vraiment le présent de chaque moment entre eux, et ça c'est un peu la double tension dans laquelle se retrouve le film. Et évidemment, j'ai perdu le fil de ma pensée par rapport au tutoiement et au vouvoiement. Je ne me souviens plus.
Vous avez cet aspect social, il est aussi indiqué et dans deux scènes qui sont importantes, parce que aussi, ça renvoie aussi à Lawrence et puis aussi à vos convictions, parce qu'on sait que vous êtes une femme intéressée aussi par la société dans laquelle on vit. On se rappelle de votre formidable bataille quand M. Debré avait voulu que les gens dénoncent les sans-papiers qu'ils avaient abrités dans leur appartement. Il fallait aller à la police et dire qu'on avait logé un étranger. Vous avez mené une bataille avec Arnaud Desplechin et d'autres, et Claire Denis et d'autres cinéastes. C'est justement cette dimension qui sociale, avec la scène avec les mineurs. Mm-hmm. Puisque le mari de Lady Chatterley, il a une usine, enfin une mine, et il y a ces visages de mineurs qui apparaissent comme ça, remplis de suie, etc. Et puis il y a la conversation entre elle et son mari, quand il est dans son fauteuil roulant, justement sur ce que c'est que les patrons, les gens inférieurs, les gens supérieurs, etc.
Oui, c'est-à-dire
que... C'est deux séquences importantes.
C'est deux séquences tout à fait décisives, et y compris décisives sur le trajet de Constance, en fait. Ce que je trouvais tout à fait passionnant dans cette histoire, c'est comment, dans sa transformation, dans son évolution à elle, la rencontre avec Parking va pas seulement la changer sur un terrain intime, sur un terrain de la découverte d'un éveil des sens, de la découverte d'une sexualité qu'elle n'a pas connue avant, qui sont évidemment des choses très décisives dans la vie d'une femme, mais ça va aussi changer complètement son rapport au monde et aux autres classes sociales, et aux domestiques et aux mineurs. Et une fois qu'elle sent la naissance d'une forme de sentiment en elle, qui est en train de naître pour le garde-chasse, alors forcément... Quand elle se retrouve une fois à aller chercher Clifford à la mine et elle voit des mineurs, et elle ne les regarde plus du tout de la même façon qu'elle ne les aurait regardés ou elle ne les a regardés quelques 30 séquences plus avant. Parce que son amour pour Parking, son amour naissant, modifie complètement son rapport au monde, et que tout d'un coup elle voit des individus au lieu de voir quelqu'un qui ne sont pas de sa classe sociale. Et une fois qu'elle a fait cette expérience-là de voir des mineurs comme des individus, et comme des individus désirables même, en fait, alors tout son rapport au monde se modifie, et pour la première fois, elle va pouvoir s'opposer à son mari, pas sur un terrain de couple, mais sur un terrain politique. Et je trouvais ça... Évidemment, c'est très important pour moi dans le processus, dans la possibilité de processus révolutionnaire de la rencontre avec l'autre, enfin de la rencontre amoureuse en l'occurrence. Et c'est une chose auquel je crois profondément. On n'est pas les mêmes selon les gens avec qui, selon ses amis, selon ses amours. On est modifié en permanence par ça. On voit bien qu'il y a des... Oui, que selon la personne qu'on aime, on n'est pas le même, et que tout notre rapport au monde peut basculer, et je trouve ça beau que ça parte de l'intime et que ça et que ça aille vers le terrain politique ou le terrain extime ou public, et que ça soit dans ce sens-là, et aussi que ça veut dire, enfin parce que ça me raconte la possibilité de la contamination complète, c'est-à-dire que à partir de ça, alors on peut changer le monde, enfin et complètement, parce que notre rapport au monde se modifiant, on pose pas les mêmes gestes, etc.
Alors, Pascal Ferrand, pour terminer, bon, je voulais parler de ces 10 années où vous étiez devenu, vous étiez occulté.
J'ai disparu.
Vous disparaissiez, mais vous travailliez sans arrêt parce que vous avez fait un documentaire sur le jazz, Sam Rivers et Tony Hymas, sur un pianiste britannique et un saxophoniste américain, Kajua Oko. Vous avez fait la version française de Eyes Wide Shut, vous avez travaillé sur un scénario qui n'a pas pu aboutir, Paratonnerre. On découvre souvent ça dans la carrière des cinéastes, c'est que je dis, mais il n'a pas tourné. En fait, une activité constante. Vous avez été script docteur, vous étiez un peu comme Claude Sautet en son temps,
oui,
c'est-à-dire qu'on vous consulte, on vient vous demander des conseils de scénario, de montage.
Oui, mais
etc.
C'est amical quand même.
C'est
en
amical.
Général,
oui. Oui, oui, mais Claude Sautet aussi, c'était amical. Mais il le faisait aussi assez souvent. Donc, bah, écoutez, j'espère tout simplement que vous n'allez pas nous faire attendre aussi longtemps pour votre nouveau film. Et le succès de Lady Chatterley, à la fois du public et de la critique, devrait vous encourager à...
Oui, c'est compliqué. Enfin, là, pour l'instant, je suis très exsangue, donc j'arrive pas encore à recharger mes batteries. Mais moi aussi, oui, j'espère attendre moins longtemps. Et puis, en même temps, j'en ai... Voilà, il y a eu une période, peu de temps après L'âge des possibles, où j'avais plutôt envie de me réeffacer un peu et de revenir plutôt à un travail de scénariste, qui est quand même une chose que je faisais régulièrement avant Petits Arrangements et qui m'a toujours passionnée. Scénariste pour d'autres, je veux dire. Et puis après, effectivement, derrière, il y a eu une phase où j'espérais pouvoir faire un film et puis pour des problèmes de financement, au dernier moment, on n'y est pas arrivé. Donc là, au moins, si ça pouvait être plutôt 3-4 ans que 10, ça serait raisonnable.
Enfin, c'est ce qu'on espère tous. Le roman Lady Chatterley, l'homme des bois est disponible chez Gallimard. C'était Projection privée, une émission de Michel Simon, équipe de réalisation Alison Ascrisi et Pierrette Perronneau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 novembre 2006. Vous pouvez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».